Merci. Tout d'abord, nous aimerions aussi remercier l'IPSEM pour nous permettre de présenter cette étude. C'est la première fois qu'on va le faire. Et puis aussi pour cette incroyable découverte dont j'ai été témoin hier soir, une découverte culinaire qui me permet justement de faire un peu une métaphore entre l'art-thérapie et le pâti doux. Le pâti doux, moi, je ne connaissais pas du tout ce légume et je me suis dit, ben tiens, il a pas une belle gueule comme ça. Et en le goûtant, il fait ressortir toutes ses saveurs. Il faut le goûter pour connaître tout son goût. Et bien l'art-thérapie, c'est pareil. Il faut l'expérimenter pour reconnaître, pour connaître ses bienfaits. Alors, malheureusement, on ne va pas vous faire expérimenter un atelier d'art-thérapie aujourd'hui. On va vous montrer une image plutôt... une approche plutôt scientifique de l'art-thérapie. Donc notre présentation, je vous le dis tout de suite, n'est pas du tout créative et originale. Ce n'est pas le but. Son but, c'est vous amener à découvrir l'art-thérapie dans un regard scientifique.
Oui, parce qu'effectivement, on parle de métaphores de tous les côtés. Là, pas de métaphores dans cette présentation, parce qu'on en avait marre d'entendre que l'art-thérapie, si ça fait pas du bien, en tout cas, ça fera pas de mal. Alors, on va essayer de vous démontrer scientifiquement que c'est effectivement le cas.
Donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Barrier, cette étude randomisée et contrôlée se situe dans deux lieux. Donc, l'hôpital cantonal universitaire à Genève et la clinique de Bondigou. On a fait cette étude novatrice parce que on s'est rendu compte qu'il y avait dans la littérature aussi peu d'études sur l'art-thérapie et l'obésité. Bien sûr, il y a énormément d'articles sur l'anorexie et les bienfaits de l'art-thérapie dans ces approches-là, mais dans l'obésité, dans l'éducation thérapeutique en même temps, eh bien peu de recherches et d'études randomisées contrôlées. Donc nous avons implanté dans un programme d'éducation thérapeutique déjà existant dans ces deux lieux un programme d'art-thérapie dont le but était de cette recherche qui était d'explorer la place spécifique et les effets du soin art-thérapique, donc art plastique et visuel plus spécifiquement, dans la prise en charge des patients obèses diabétiques de type 2 afin de justifier ou non de sa pertinence. Alors, notre hypothèse était de dire que le patient bénéficiant d'un programme d'art-thérapie structuré et manualisé va développer une qualité de vie supérieure. Pour ce, nous avons bien sûr eu la grande difficulté, et en même temps ça s'est très bien passé, d'évaluer une approche subjective de manière objective. Tout en prenant garde que plus on va évaluer des approches comme l'art-thérapie de manière très scientifique, plus on va perdre une partie du processus qui laisse un peu la surprise. Hein. Le processus créatif amène parfois des surprises. Plus on va essayer de la maîtriser, plus on va perdre la spécificité de l'art-thérapie. Toutefois, on a quand même, dans cette démarche scientifique, utilisé une échelle de questionnaires où on a utilisé des questionnaires comme les questionnaires des potentialités créatives de Jean-Luc Sudre, le Figure Rating Scale de Stunkart qui permet de travailler, enfin d'évaluer l'image du corps. Ensuite, le Torrance Test of Creative Thinking de Torrance est pour aussi permettre d'explorer toute la créativité du patient. Puis, on a utilisé aussi le questionnaire de bien-être de Bradley et puis le questionnaire des mécanismes de défense de Bound. Alors, on va vous montrer quelques exemples de ces questionnaires. Peut-être que vous les connaissez déjà. Donc ici, vous avez le questionnaire des silhouettes où le patient doit choisir sur 9 silhouettes laquelle le ressemble le mieux actuellement. Et puis, dans une deuxième partie, la silhouette qu'il aimerait avoir. Donc, c'est à partir de là qu'on peut voir si la personne obèse a une bonne image du corps ou pas. Plus le résultat des deux est décalé, plus on sent que l'image corporelle n'est pas très claire pour le patient. Dans ces questionnaires de créativité, vous voyez, on a des signes qui sont exposés. On invite le participant à remplir, à faire quelque chose de ces signes. Hein, chacun a la possibilité d'imaginer et ensuite de mettre un titre ou de raconter une histoire. Le jeu continue en utilisant des lignes parallèles, en essayant d'y mettre des lettres ou être un petit peu plus créatif en faisant un dessin de ces lignes parallèles qui sont là et aussi, encore une fois, de l'inviter à donner un titre à son dessin ou à raconter une histoire par rapport à ces schémas qui sont proposés dans ce test. Là, vous avez l'échelle de bien-être de Bradley. Alors, voilà. Donc, on a donné une batterie de tests assez conséquente pour les patients. Tout à l'heure, Frédéric Sanguignol vous expliquera à quel moment on les a fait passer. Ce que moi, j'aimerais vous présenter, c'est ce programme donc d'art thérapie qui a été standardisé, manualisé ou HUG, comporte 5 séances. Donc, il a été intégré dans un programme d'éducation thérapeutique. Et le patient, durant ces 2 ou 3 semaines de séjour, avait 5 séances d'art thérapie d'environ 1 à 2 heures, avec une thématique proposée. Bien sûr, on invite, il ne faut pas oublier qu'en art thérapie, on va inviter le patient à jouer. Alors, ces thèmes semblent très directs comme ça, mais l'art thérapeute a la connaissance pour inviter le patient à se questionner autour de comment il se sent là maintenant, quels sont ses obstacles, ses difficultés, quelles sont ses ressources, ses potentialités, quels sont ses projets. Et puis ensuite, la dernière séance, on l'invite à faire une mise en lien de toutes les œuvres qu'il a réalisées et pour raconter son parcours pendant l'hospitalisation, mais aussi son parcours de vie autour de ces thèmes-là. Donc nos séances sont limitées de 6 à 8 personnes et bien entendu sont animées par des art thérapeutes formés à cette discipline et à ce programme, puisqu'il y avait deux art thérapeutes, une dans chaque lieu, avec sa spécificité et sa sensibilité. Il ne faut pas oublier quand même que c'est deux personnalités différentes et ça, je pense que ça aussi, il faut aussi prendre en compte. Voilà.
Alors, comment s'est passée cette étude? Donc, un certain nombre de questionnaires, vous avez vu, c'était assez lourd pour chaque patient, qui remplissait un questionnaire à l'entrée du séjour, à la sortie du séjour 3 semaines après, et puis il recevait 6 semaines après la fin du séjour, par la poste, à nouveau ce questionnaire. Donc, ça représentait quand même une bonne heure de travail pour chaque patient. Et nous avons pu donc obtenir une population de 437 patients qui ont réalisé en tout cas le premier test à l'arrivée dans les deux établissements. Je rappelle que l'ensemble de ces patients suivaient un programme d'éducation thérapeutique structuré, évalué, et qu'ensuite nous avons fait une étude randomisée, contrôlée, puisque la moitié des patients ont suivi, en plus de l'éducation thérapeutique, le programme d'art thérapie, pendant que l'autre groupe ne suivait pas d'art thérapie. Donc sur l'ensemble des questionnaires que nous avons recueillis, 259 ont pu être analysés pour ce qui concerne le test à l'entrée et à la sortie du séjour, et 170 ont pu être analysés pour ce qui concerne donc l'entrée, la sortie et 6 semaines après le séjour. Alors nous allons vous présenter un certain nombre de résultats, tout en vous disant tout d'abord que ces deux populations randomisées n'ont montré aucune différence statistiquement significative entre elles. Même âge, même poids, même BMI, enfin vraiment aucune différence entre les deux groupes qui avaient été faits de façon aléatoire, aucune différence que ce soit des caractéristiques bio, psycho, socio-culturelles des différents groupes. Alors, premier résultat, vous voyez sur l'indice de masse corporelle, par exemple, une évolution identique dans les deux groupes, pas de différence significative entre ceux qui ont fait ou pas fait l'art thérapie, et une perte de poids d'environ 6 kilos, 6 semaines après le séjour. En ce qui concerne la silhouette, le test de Stunkaart qu'on vous a présenté, là aussi, une évolution sensiblement égale, une amélioration significative de l'image corporelle pendant et après le séjour. Alors là, par contre, ça commence à diverger un petit peu en ce qui concerne la fluidité, c'est-à-dire l'aptitude du sujet à produire un grand nombre d'idées. Eh bien, vous voyez que pour le groupe art thérapie, il y a une amélioration sensible et statistiquement significative de cette fluidité, alors qu'il y a plutôt une baisse dans le groupe qui ne suit pas l'art thérapie. En ce qui concerne la flexibilité, c'est-à-dire l'aptitude du sujet à produire des réponses très variées appartenant à des domaines différents, une évolution, là aussi, encore favorable au groupe d'art thérapie, avec une augmentation dans le groupe d'art thérapie, alors qu'on a une baisse dans celui qui ne suit pas l'art thérapie. Sur l'élaboration, l'aptitude du sujet à développer, élargir, embellir des idées, eh bien là aussi, deux courbes qui se croisent, un point de départ identique, et puis une amélioration de cette élaboration pour le groupe art thérapie et une baisse pour le groupe contrôle. Pour l'originalité, c'est-à-dire l'aptitude du sujet à produire des idées éloignées de l'évident, du banal, de l'établi, là encore, vous voyez une amélioration statistiquement significative du groupe qui suit l'art thérapie et une relative stabilisation du groupe contrôle. Ces quatre items, fluidité, flexibilité, originalité et élaboration, se retrouvent dans un schéma de créativité totale, ce qu'on appelle la créativité totale pour chaque patient. Et vous voyez, là aussi, les choses sont claires. Le point de départ, donc, vous voyez, à l'entrée dans l'établissement, le point de départ est strictement identique. Ceux qui suivent l'art thérapie, en plus du programme d'éducation thérapeutique, ont une créativité totale qui augmente, alors que ceux qui ne la suivent pas ont une créativité totale qui baisse. Sur le bien-être, une évolution parallèle pendant le séjour et qui se poursuit après, en sachant que la différence qui apparaît entre les deux groupes ici n'est pas statistiquement significative. Enfin, la sensibilité artistique, eh bien, une stabilité du groupe contrôle par rapport à une amélioration de cette sensibilité pour le groupe art-thérapie. Voilà, c'était quelques présentations. On a recueilli 130 données par patient, 437 patients, vous imaginez le travail d'évaluation derrière. Donc, j'allais pas vous présenter les 130 données, je voulais juste vous montrer quelques points sur lesquels nous souhaitions insister. Alors en conclusion, ce qu'on peut vous dire, c'est que la prise en charge par des programmes d'éducation thérapeutique de la personne obèse diabétique amène un réel processus de changement pendant et après le séjour, avec une perte significative de poids et d'indice de masse corporelle, une amélioration significative de la satisfaction de l'image corporelle, une amélioration significative également du bien-être et... Là, je ne vous ai pas présenté les résultats parce qu'ils sont encore en train d'être examinés à la loupe. C'est une croissance significative du style de défense mature des patients, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils mettent en place comme défense par rapport à leurs problèmes de poids. Deuxième conclusion, Christina.
Donc, ce que nous pouvons dire concernant les patients contrôle qui n'ont pas fait d'art thérapie, donc ils voient leur créativité et toutes les variables afférentes à ce domaine diminuer significativement pendant et après l'hospitalisation. Autrement dit, bon, ils gagnent à un endroit, le poids, le BMI, la satisfaction de l'image corporelle, le bien-être, le style de défense, mais ils perdent ailleurs en matière de qualité de vie et d'ouverture au monde. Les patients qui... suivent le programme d'art thérapie ont, comme on a pu le voir, une créativité qui augmente au cours de l'hospitalisation et perdure et s'accentue après. Donc on peut voir que la mobilisation de la créativité au sens large s'est inscrite dans un champ opérationnel, dans la résolution des problèmes, de la pleine conscience et dans l'ouverture du monde socioculturel, ce qui va constituer un ancrage essentiel pour mettre en place des changements qui vont durer. Les patients qui font de l'art thérapie ont aussi pu exprimer plus facilement des problématiques, des difficultés psychiques, conjugales, familiales et sociales qui jusque-là étaient restées enfouies ou latentes. Sur la base de la dynamique et des productions réalisées, ces difficultés-là ont pu être élaborées et développées avec les autres membres de l'équipe comme les psychiatres, les psychologues, les infirmières, les médecins somaticiens. Ce qu'on peut dire, c'est que le programme d'art thérapie a aussi contribué à positiver le regard porté par le personnel soignant sur la personne obèse diabétique de type 2 qui devient par là même actrice de son changement. L'art-thérapie donc advient comme un révélateur et un développeur du soi dans une perspective d'hétéro-soin et d'auto-soin. Elle a contribué à introduire une ère de jeu en donnant une place singulière au jeu dans cette prise en charge rationnelle et médicalement maîtrisée. L'essai du jeu au jeu apparaît essentiel pour éprouver le plaisir à être. Le processus art-thérapeutique et les œuvres réalisées ont eu un rôle révélateur qui vont permettre aux patients de mieux se connaître, de mieux comprendre sa maladie et de se prendre en charge au quotidien. Mais pas seulement le patient, je pense que ça permet également aux soignants de rencontrer le patient différemment, d'avoir un autre regard sur lui, sur son histoire, sur sa maladie et de l'accompagner différemment. Pour conclusion, on peut dire que les résultats de cette étude devraient contribuer peut-être à modifier, améliorer certaines pratiques du terrain pour accompagner la personne obèse diabétique.
Alors bien sûr, nous tenons à remercier les équipes des hôpitaux universitaires de Genève et de la clinique de Bondigou. Merci mesdames de ce travail effectué. On tient à remercier aussi le réseau Diamib, qui est le réseau diabète en Midi-Pyrénées, qui a permis de financer cette étude. Et enfin, Jean-Luc Sudre, qui est maître de conférence à la faculté du Mirail à Toulouse et qui a été notre évaluateur externe. Et puis, il fallait bien quand même qu'on termine par vous montrer notre atelier d'art-thérapie, voyez, à droite. Alors, on l'a rebaptisé récemment l'atelier Patidou, bien sûr, du célèbre nom du docteur dont on parle ce matin, et puis quelques œuvres de nos patients. Merci de votre attention.